Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h.
h 30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Changement de pied donc de l'exécutif. Le président de la République sur le Tour de France a dit hier qu'il fallait vivre et apprendre à vivre avec le Covid. C'est un fléau silencieux qui s'aggrave. On manque de médicaments pour soigner les malades du cancer. C'est tragique. La Ligue contre le cancer tire la sonnette d'alarme. Témoignage dans ce journal avec Lucille et la rédaction. Donc sur le Covid ou la Covid, après Bordeaux et Marseille, le gouvernement veut serrer la vis sanitaire à Lyon. Olivier Véran prend la parole, le ministre de la Santé, aux alentours de 17h. Où sont les autres point chaud? On vous dit tout dans quelques minutes. Et puis les incendies aux États-Unis sont si intenses que leur fumée a atteint l'Europe. Faut-il s'inquiéter pour notre santé? Réponse à la fin de ce journal. Il est donc pile 8h. Voici Lucille Bréau.
Radio Classique.
Mais donc, ce cri d'alarme que j'évoquais dans les titres de la Ligue contre le cancer, Lucille, on manque de médicaments pour soigner les malades.
L'an dernier, 1500 médicaments ont été signalés en rupture de stock, dont une quarantaine d'anticancéreux, arrêt de commercialisation, délocalisation en Asie. La Ligue contre le cancer lance une campagne pour alerter les pouvoirs publics. Que faire pour enrayer ce phénomène? C'est le dossier du jour de Rémi Pfister.
Il y a un an, Marie-Josée Legrand, 69 ans, est atteinte d'un cancer du rein. Après une ablation, les métastases se propagent tout de même dans la vessie. On lui propose alors le seul traitement qu'elle peut tolérer, un protocole d'immunothérapie sur 3 ans. Mais après une seule séance, c'est la douche froide.
On m'a expliqué que les laboratoires Sanofi avaient décidé de ne plus fabriquer ce produit parce qu'il n'était pas suffisamment rentable. Il y a déjà le stress du cancer, plus le stress de l'arrêt du traitement et par rapport à l'avenir.
Paradoxalement, c'est durant la crise du Covid que son traitement peut reprendre. Beaucoup de patients abandonnent leur séance à l'hôpital. Le produit est à nouveau disponible, mais pour combien de temps?
Forcément, j'ai peur d'une nouvelle pénurie parce que je ne suis pas à l'abri de ça. S'il n'y a pas de traitement, c'est la mort parce que mon cancer était très agressif. Le chirurgien m'a appelé. Il se sent aussi impuissant que moi.
L'impuissance, c'est ce que ressent depuis quelques années Nicolas Bertrand, cancérologue au CHU de Lille.
On ne fait pas le traitement et puis on surveille la maladie s'il y a une récidive pour la prendre en charge le plus tôt possible. C'est très anxiogène pour les patients de se dire qu'on n'a pas eu le traitement adéquat. Dans certaines villes, il y a pu y avoir une diminution de la qualité de la prise en charge des patients.
Deux solutions pour la Ligue contre le cancer: contraindre les laboratoires privés à produire en stock suffisant les produits de grande utilité et relocaliser la production de médicaments sur le sol européen.
Un dossier réalisé par Rémi Pfister sur le front du Covid-19. Près de 10 000 nouveaux cas ont encore été identifiés lors des dernières 24 heures dans notre pays. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné son feu vert au test antigénique. L'arrêté qui les autorise a été publié hier soir au journal officiel. Ils promettent un résultat en 10 minutes. Le PCR reste recommandé pour les personnes symptomatiques et les cas contacts.
Olivier Véran qui justement tient une conférence de presse aux alentours de 17h.
Et ce sera toutes les semaines, Guillaume, désormais. Objectif, préparer les esprits à un durcissement des contraintes sanitaires dans certaines villes. Après Lille, Marseille et Bordeaux, où sont ces nouveaux points chauds, Augustin Lefebvre?
Eh bien, c'est la situation à Lyon qui inquiète les autorités. Dans le Rhône, le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, est le deuxième plus élevé du pays. Et il y a plus de patients en réanimation qu'à Bordeaux ou à Lille. En région parisienne également, les indicateurs sont mauvais. Même chose en Haute-Garonne, où le maire de Toulouse se prépare à de nouvelles mesures. Au total, 44 départements sont en niveau de vulnérabilité élevé. Comme au printemps, il y a de fortes disparités et le virus circule peu dans certains départements comme la Haute-Saône, l'Indre ou la Charente-Maritime. Ça, c'est pour la situation en métropole. Dans les Outre-mer, l'état d'urgence sanitaire est levé depuis hier à Mayotte et en Guyane.
Augustin Lefebvre, merci Augustin.
La suite du journal avec vous donc, ma chère Lucille.
Les soignants réclament encore et toujours plus de bras, plus de moyens. Guillaume, des infirmières dans les hôpitaux, des aides-soignants dans les EHPAD. La crise sanitaire, vous le savez, l'a révélé. Le manque de personnel est criant. Pour rendre ces métiers plus attractifs, le gouvernement mise sur l'apprentissage. Jean Castex a annoncé mardi la fin des quotas d'apprentis dans le secteur de la santé. Victoire Fort.
C'est un secteur où les apprentis sont rares. Pourtant, 60 000 postes d'aides-soignants et d'auxiliaires de vie seraient à pourvoir. Aurélien Cadieu, président de l'Association nationale des apprentis de France.
C'est effectivement une très bonne chose, d'autant plus que ça leur permet d'avoir un statut qui est totalement différent, puisqu'ils auront le statut de salariés et d'étudiants, ce qui leur permet d'avoir une situation économique qui est plus pérenne pour eux que de faire des stages et d'accumuler des stages.
Cette levée des quotas est surtout destinée au secteur du grand âge. L'ouverture à l'apprentissage en France va permettre de mieux former les soignants pour Nadej Plou, DRH du groupement européen d'EHPAD, Korian.
Par le biais de l'apprentissage, vous êtes finalement au quotidien, à raison d'une semaine sur deux en structure, ce qui permet aussi pas à pas d'apprendre les bons gestes et d'y aller posément.
Oui, mais les syndicats y voient aussi une mesure pansement qui ne s'attaque pas au nerf de la guerre. Félix Ledoux est président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers.
Aujourd'hui, ils ont des difficultés à fidéliser leurs professionnels. Il faut beaucoup plus travailler sur les conditions de travail avant de justement développer l'apprentissage.
Avec la reprise de l'épidémie, les professionnels du secteur préviennent, il faudra des renforts dans les EHPAD.
Les blouses blanches qui seront dans la rue. Aujourd'hui en France, on manifeste aujourd'hui avec masques et gestes barrières. Première journée de grève et de mobilisation de la rentrée à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires pour la hausse des salaires et l'abandon de la réforme des retraites et de l'assurance chômage. À Paris, le cortège partira de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation à 14h.
Et puis une toute petite phrase, mais qu'il faut écouter, c'est Édouard Philippe qui sort de son silence pour nous prédire des temps difficiles.
Et oui, retour à la tribune pour l'ancien Premier ministre hier soir en meeting en Seine-Maritime pour soutenir une candidate Les Républicains sortante au sénatorial. On écoute, tendez l'oreille.
Je pense que nous allons affronter une tempête. Une tempête économique, une tempête sanitaire, une tempête à tous égards. Peut-être une tempête sociale, peut-être une tempête politique. Mais je pense que les temps qui viennent sont des temps difficiles.
Voilà, Édouard Philippe, hier en meeting en Seine-Maritime. La tempête économique, elle est bien là, avec chaque jour l'annonce de nouvelles suppressions de postes. 863 emplois menacés par la fermeture annoncée de l'usine Bridgestone de Béthune. Le traiteur Fauchon, lui, laminé par la crise du Covid-19, va fermer ses deux magasins emblématiques de la place de la Madeleine à Paris. Conséquence, 77 licenciements. Les pays riches préemptent les vaccins. Un groupe d'États qui représente 13% de la population mondiale a préacheté la moitié des futures doses de vaccins pour lutter contre le Covid-19, c'est l'ONG Oxfam qui nous l'apprend ce matin.
Et puis nous terminons donc le journal avec ce ciel rouge-feu au Royaume-Uni et au nord de l'Allemagne. Il s'agit de fumées qui viennent des États-Unis.
Et oui, des fumées, des gigantesques incendies de la côte ouest américaine qui sont arrivés donc jusqu'en Europe. Elles ont parcouru quand même 8000 kilomètres. Alors comment est-ce possible? Thomas Giraudeau a posé la question à Mark Parrington du service européen Copernicus chargé de surveiller des incendies.
Les incendies aux États-Unis sont tellement intenses que les fumées sont montées dans la haute atmosphère, entre 5 et 10 km au-dessus de nos têtes. À cette hauteur, les composants chimiques de ces fumées survivent plus longtemps et les vents sont plus forts. Une partie de ces fumées ont été prises dans un courant très rapide, le jet stream, qui les a fait traverser l'océan Atlantique. Mais contrairement à la situation en Californie où la qualité de l'air est très mauvaise, les fumées passent au-dessus de l'Europe et ne descendent pas à la surface. Ça ne joue donc pas sur la qualité de l'air ici. En revanche, on voit effectivement ce ciel brumeux où s'est levé et couché de soleil très rouge en Europe du Nord.
Voilà, mais pas de risque a priori pour notre santé, heureusement. Le Tour de France, enfin 18e étape aujourd'hui, 175 km, Guillaume, entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Tadej Pogacar, numéro 2 du classement, va devoir tout donner pour espérer ravir le maillot jaune à son compatriote Primoz Roglic, toujours en jaune à 4 jours de l'arrivée.
Voilà, et avant d'écouter, merci Lucille, Guillaume Tabar qui va parler justement de la crise sanitaire et de ses implications politique, il faut écouter et décrypter ces quelques mots du président de la République qui était hier à l'étape de Méribel et qui d'une certaine manière anticipe la conférence de presse donc d'Olivier Véran qui aura lieu aux alentours de 17h aujourd'hui. Écoutez le président de la République.
C'était extrêmement important dans le contexte qu'on connaît de montrer, comme on l'a dit plusieurs fois avec le gouvernement, qu'il faut vivre avec le virus. C'est-à-dire qu'on sait que le virus est là, qu'il tourne, il tourne de plus en plus vite dans certains départements. Pendant des mois, le virus sera là. Donc on doit avoir la bonne organisation sanitaire, mais vivre avec le virus, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire avec des bonnes règles, on doit essayer de le tenir pour continuer à vivre.
Voilà, ces propos illustrent la une du Monde qui est sortie hier, qui considère qu'il y a un tournant dans la politique gouvernementale qui consiste à ne pas suivre systématiquement, voire même à ne plus écouter donc le conseil scientifique, vivre avec le virus. Cette crise, nous en parlerons tout à l'heure avec Hubert Védrine, qui fut ministre des Affaires étrangères, et nous parlerons évidemment de la situation internationale, née de la future élection américaine, donc du 3 novembre prochain. Il est 8h09, voici Guillaume Tabar et Hubert Védrine.